VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 19h à Cibitoke, au Burundi. Bonsoir, bienvenue, Burundi. Au moins 8 morts dans plusieurs quartiers de Bujumbura ce week-end au cours d'affrontements entre la police et des hommes armés de grenades. Le porte-parole des forces de l'ordre, Pierre Nkurukiye, affirme que le policier n'était pas présent sur le lieu où 6 cadavres ont été trouvés dans la nuit de samedi à dimanche. Nathalie Barge a joint M. Nkurukiye annonçant de nouveaux tirs de grenades ce lundi.
Pour la journée de samedi, ces gens-là avaient lancé plus de 20 grenades à l'endroit des policiers. Et pour la nuit qui a suivi, alors, il y a eu autour de 15 grenades lancées. Mais dans une autre zone, à Kamenge également, il y a eu deux grenades qui ont blessé 8 personnes. Et dimanche matin, la police a été informée également de la présence dans la même zone de Moussaga de 6 cadavres. Les citoyens ont indiqué à la police qu'ils avaient entendu des tirs à cet endroit pendant la nuit vers 3 heures. Dans cette localité, on a découvert les cadavres. Il n'y avait pas de présence policière ou militaire.
Nous avons eu cependant des témoignages ce week-end disant que des quartiers avaient été bouclés et que seule la police était présente dans ces quartiers.
En tout cas, à 3 heures du matin, là où ces tirs ont été entendus, la police n'était pas dans cette localité, ni la police, ni l'armée.
Combien de personnes ont été arrêtées depuis ce week-end?
Je ne saurais pas vous donner le nombre exact. Dimanche, certains avaient déjà été relaxés.
Qu'est-ce qu'on leur reprochait lorsqu'on les a arrêtés?
Lorsqu'il y a une grenade qui est lancée, par exemple, à partir d'une maison dans laquelle se trouvent plusieurs personnes, dans un premier temps, on peut arrêter plusieurs personnes en masse. Mais après identification, on peut relaxer certaines pour ne garder que ceux-là qui pourraient être ceux qui ont lancé cette grenade.
Pierre Nkurukiye, le porte-parole de l'armée burundaise, joint donc à Bujumbura. La flambée de violence qui a embrasé Bangui en Centrafrique à la fin du mois de septembre a fait 61 morts et 300 blessés. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le gouvernement centrafricain, révisant à la hausse de précédents bilans faisant état d'une quarantaine de morts. Félicie Passy Zembro.
Ces violences avaient éclaté le 26 septembre après l'assassinat d'un conducteur de mototaxi de confession musulmane et s'était propagé dans plusieurs quartiers de la capitale avant que les forces internationales ne parviennent à rétablir le calme. La ville avait également été paralysée pendant 4 jours par des barricades érigées par des manifestants, réclamant notamment la démission de la présidente de transition, Catherine Samba-Panza. Bangui a retrouvé son calme d'avant les dernières violences ce lundi. Les banques, les magasins de gros, les boutiques ont rouvert. Les taxis, taxibus et taximoto ont également repris le service, mais certains axes ne sont pas totalement desservis. Le premier tour des élections présidentielles et législatives était prévu le 18 octobre, mais va devoir être reporté une nouvelle fois, le processus d'enregistrement électoral ayant accumulé des retards.
Le président tchadien Idriss Déby, très influent en Centrafrique, a estimé aujourd'hui que la transition en cours dans ce pays devait s'arrêter et des élections être organisées avant la fin de 2015. Il vaut mieux une mauvaise élection plus qu'une transition chancelante, a déclaré le président Déby à l'issue d'un entretien à Paris avec le président François Hollande.
VOA Afrique, en direct de Washington.
En Guinée, les violences entre partisans de candidats à la présidentielle ont fait un mort et 80 blessés à Nzérékoré, rapporte l'AFP. Ces violences ont conduit à l'instauration d'un couvre-feu dans cette ville du sud-est de la Guinée. Les heurts ont éclaté vendredi après-midi et se sont poursuivis jusque tard samedi entre partisans du président Alpha Condé, candidat de la majorité en campagne pour le scrutin du 11 octobre, et de sympathisants de candidats de l'opposition, dont son principal adversaire, Selou Dalène Diallo. Au Niger, 6 personnes, un gendarme et 5 civils ont été tués dimanche matin dans des attentats suicides perpétrés par des kamikazes du groupe Boko Haram au cœur de la ville de Difa, dans le sud-est du Niger. Dans une autre attaque, des kamikazes du groupe islamiste sont morts dimanche soir après s'être fait exploser à Bosso, dans la même région, sans faire de victimes. Les assaillants, qui sont venus à pied du Nigeria voisin, d'après l'AFP, ont activé leur ceinture d'explosifs lorsque les militaires ont commencé à tirer dans leur direction à trois différents endroits de la ville. Les forces de l'ordre ont renforcé la sécurité autour de la ville de Bosso et procédé à des fouilles intenses dans la localité. Le groupe islamiste Boko Haram a fait aussi parler de lui au Nigeria voisin. La secte a revendiqué hier sur Twitter la responsabilité des deux attentats suicides qui ont fait 18 morts et une quarantaine de blessés vendredi dans la banlieue de la capitale fédérale nigériane, Abuja. On reste au Nigeria, mais pour parler de corruption, Abuja a confirmé l'arrestation à Londres de l'ancienne ministre nigériane du pétrole, Diezani Alison Madukwe, libérée sous caution aujourd'hui même, dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption et de blanchiment d'argent. Madukwe n'est pas la seule à avoir été interceptée. Quatre autres personnes sont impliquées dans cette affaire. Salwa Jafari.
La campagne anticorruption du président Buhari bat son plein avec ses nouvelles arrestations. L'information a été confirmée par l'Agence britannique de lutte contre le crime. L'ancienne ministre du pétrole ainsi que quatre autres personnes ont été arrêtées et puis relâchées sous caution en attendant une enquête plus approfondie à la fois au Royaume-Uni et à l'étranger. Diezani Alison Madueke, 59 ans, a été ministre du pétrole de 2010 à 2015 sous la présidence de Goodluck Jonathan. Elle a été la première femme à endosser ce rôle au Nigeria ainsi que celui de présidente de l'OPEP. Elle a été accusée par le passé de fraude à grande échelle dans la gestion de la richesse pétrolière du pays, mais a nié en bloc ces accusations. En février 2014, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria a accusé la compagnie pétrolière nationale nigérienne d'avoir omis de verser 20 milliards de dollars de recettes avant d'être démis de ses fonctions par Goodluck Jonathan, qui a contesté ces chiffres. Le président Buhari s'est par ailleurs attribué le portefeuille clé du pétrole au sein du gouvernement actuel, dont il a soumis la composition mercredi au Parlement. 4 mois après sa prise de fonction.
En Libye, 85 corps de migrants ont été découverts ces 5 derniers jours sur des plages du littoral. Les corps en état de décomposition ont échoué sur des plages entre Tripoli et Sabratha, ville côtière située à 66 km à l'ouest de la capitale, selon l'AFP qui cite le Croissant Rouge libyen. Les gardes-côtes libyens ont annoncé ce lundi avoir secouru 212 autres migrants. Les migrants tentent de rejoindre l'île italienne de Lampedusa, qui n'est située qu'à un peu plus de 300 km sur les côtes libyennes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Turquie a décidé d'activer ses règles d'engagement si son espace aérien est violé, a prévenu le premier ministre turc Ahmet Davutoglu après un incident à la frontière syrienne provoqué par un avion russe. La Turquie avait annoncé que des F-16 turcs avaient intercepté samedi un chasseur de l'armée de l'air russe et l'avait forcé à faire demi-tour. L'ambassadeur de Russie à Ankara a été convoqué samedi et les autorités turques lui ont fait part de leur vive protestation à la suite de cet incident, selon un communiqué du ministère turc des Affaires étrangères. Médecins sans frontières, MSF, a condamné les contradictions dans le récit donné par les États-Unis du bombardement américain de l'hôpital de l'ONG à Kunduz, en Afghanistan. La frappe a fait au moins 22 morts, dont 12 employés et 10 patients, et poussé MSF à retirer son personnel de Kunduz. Un coup terrible pour la population civile prise dans les combats entre l'armée afghane et les talibans pour le contrôle de cette ville du nord afghan. Prix Nobel de médecine William Campbell, né en Irlande, le japonais Satoshi Omura et la chinoise Tu Youyou sont les gagnants cette année. Les lauréats du prix Nobel cette année ont développé des thérapies qui ont révolutionné le traitement de certaines des maladies parasitaires les plus dévastatrices, dont le paludisme, a fait savoir le comité Nobel de l'Institut Karolinska. On termine ce journal par du sport. Le tout-puissant Mazembe, et on parle de football donc en Afrique, le tout-puissant Mazembe rejoint l'USM Alger en finale de la Ligue des champions africaine. Le club congolais a démontré sa suprématie face au Soudanais d'Almerek. 3-0, c'était hier à Lubumbashi. Le 30 octobre, le TP Mazembe devra donc chercher son 5e titre pour devenir le 2e club le plus titré en Ligue des champions. Et dans la Coupe de la CAF, la Coupe de la Confédération, les Sud-Africains d'Orlando Pirates ont arraché leur ticket pour jouer la finale contre l'Étoile du Sahel. Les deux finalistes ont éliminé respectivement les Égyptiens d'Al Ahly et le Zamalek. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis, merci pour votre loyauté. Prochain journal, c'est seulement dans 20 minutes et ce sera dans le magazine Le Monde aujourd'hui. Merci encore de votre fidélité et à bientôt sur La Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.